Salut, c'est Steven Jambot de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous m'écoutez en podcast. Tout à l'heure, nous partirons dans les locaux d'un tout nouveau magazine français nommé Epsilon, qui entend rénover la presse d'information scientifique. Mais d'abord, l'équipe de l'Atelier des médias souhaiterait vous parler de deux revues. Des revues qu'on appelle MOOC, parce qu'elles sont un joli mélange entre des magazines et des livres, books en anglais. Pour faire simple, des MOOC, ce sont en fait des magazines joliment rédigés et illustrés, imprimés sur du papier de qualité et qu'on a envie de garder. Là tout de suite, pour vous présenter deux MOOC, j'accueille Pauline Linard-Cazanave. Salut Pauline.
Salut Steven.
Commençons par Epic. Epic, c'est une revue trimestrielle dont le premier numéro est parue en janvier 2021, elle donne une grande place à la photographie.
Dès la couverture, le concept de la revue est posé. On y lit médias lents, images larges, on n'est donc pas en prise avec l'actualité chaude. Ambroise Touvet est un des cofondateurs de la revue et il m'explique qu'il veut une revue accessible au plus grand nombre.
On a choisi de traiter des sujets qui vont être compréhensibles et qui atteignent tous les lecteurs. Il n'y a pas d'exclusivité, il n'y a pas d'élitisme. Les aventures du coin de la rue comme à l'autre bout du monde, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde rêve, tout le monde a envie d'aller loin, tout le monde est curieux. Je pense que la nature humaine est curieuse. Et à côté de ça, tout le monde vit au quotidien des choses qui sont parfois inattendues, etc. Voilà. Et rafraîchissante, pourquoi ? Parce qu'on a choisi de traiter des sujets qui sont au long cours, qui ne vont pas être uniquement collés à l'actualité. Et quand on est un peu distant du temps, vous voyez, quand on en est détaché, on acquiert une espèce de liberté apaisante qui permet de se renouveler et non pas d'être tout le temps un petit peu la langue pendante derrière l'instantanéité.
Les documentaires photos présentés dans Epic courent sur une trentaine de pages chacun. Tu l'as dit aussi, ce MOOC paraît sur un rythme trimestriel. En ne publiant que 4 fois par an, les cofondateurs veulent laisser le temps à leurs lecteurs de s'imprégner de ces photos.
Alors on pourrait croire qu'Epic s'érige en alternative aux photos d'Instagram, mais l'équipe éditoriale de MOOC se sert aussi du réseau social, propriété de Facebook, on le rappelle, pour dénicher des talents et de belles photographies. C'est bien cela ?
Oui, et j'ai justement posé la question à Ambroise Touvet.
Alors renouer le dialogue avec les réseaux sociaux et proposer une alternative. Effectivement, renouer le dialogue, on sait par exemple que popularité ne pourra que passer par ce biais-là, et d'autres bien sûr, mais on ne peut pas l'exclure. Et il ne s'agit pas d'être en opposition avec les réseaux sociaux. En revanche, ce qu'on souhaite, c'est proposer une compréhension de l'usage d'un média, d'un réseau social comme Instagram, qui est fugitif. Tout est fugace, c'est-à-dire que votre photo, elle va rester le temps que vous aurez choisi de la regarder, puis après vous passez à une autre. Et en fait, c'en est presque dommage, parce qu'on voit passer de très belles choses, mais finalement, on a du mal à les enraciner, quoi. Et on pense que notre devoir, c'est aussi de pointer un peu du doigt cette frustration. Et cette frustration de voir disparaître ces fameuses images qu'on a aimées, nous, l'alternative, c'est de pouvoir en proposer une trace écrite, imprimée, à travers le papier. Et de ce fait-là, on est présent à travers un réseau social comme Instagram, puisque on a 16 000 abonnés. Mais nos reportages ne sont exclusivement à regarder que sur le papier. Si vous voulez lire Revue Epic, il faut l'avoir en main, quoi. Il faut l'avoir en main et pas l'avoir en doigt, pas swiper, quoi. En revanche, comment est-ce qu'on diffuse la bonne parole ? Comment est-ce qu'on atteint le plus grand nombre ? On atteint le plus grand nombre à travers les réseaux sociaux, ça c'est une évidence. On atteint à travers quelques publications qu'on va faire, qui annoncent la sortie, quand on est tagué, quand Revue Epic est taguée et que les gens veulent nous montrer leurs travaux. Et puis aussi quand certains lecteurs vont pouvoir dire « moi j'ai découvert Epic » ou alors « j'ai découvert ce reportage, ce sujet, ce photographe et je veux partager ». Les lecteurs sont en droit de partager partager ce qu'ils découvrent. La passerelle qu'on peut avoir entre le réseau social Instagram et notre revue, elle existe pourtant, puisque tous ceux qui nous taguent avec le tag revue épique, tout ça figure sur notre fil. Et puis, on publie, pour chaque numéro, on va publier 8 photos qui ont été taguées. Voilà. Donc, on appelle. On contacte chacun des auteurs de ces images, de ces 8 images qu'on veut éditer à chaque numéro. On leur demande l'autorisation, on les rémunère pour cette photo, et puis on leur demande aussi, comme pour les photographes de nos reportages, de nous légender leurs photos. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la passerelle entre le réseau Instagram et puis Revue Épique. Ensuite, pour les autres réseaux sociaux, on est vraiment actif sur Facebook, où on va, tout comme sur Instagram, faire une sélection du jeudi, une sélection de photos qui nous plaisent. Et puis sur LinkedIn, de manière un peu plus ponctuelle, parce qu'on souhaite proposer aux entreprises notre revue, l'ossature de notre revue pour leur, comment dire, sur des sujets qui les concernent. Voilà, des initiatives de collaborateurs, des reportages internes, de la street photo adaptée au monde de l'entreprise et de monde de l'industrie, par exemple, etc., etc. Et donc, permettre que ce bel objet, enfin, ce que nous, on pense être un bel objet, que Revue Épique puisse être décliné aux couleurs d'une entreprise. Si vous voulez, ça peut être entreprise du Schmoll, by Revue Épique. Voilà.
Grâce au hashtag Revue Épique, le comité éditorial d'Épique sélectionne des photos sur Instagram qui seront publiées dans la revue, sur papier, dans une rubrique intitulée Le Canevas et qui s'étend sur 16 pages. Il laisse aussi aux photographes la voie libre pour rédiger les légendes de chaque photo pour qu'elles ne soient pas plaquées sans contexte.
Épique tente donc une intelligente passerelle entre Instagram et la photographie professionnelle imprimée sur papier.
Et un équilibre entre grands voyages et histoires qui se déroulent au coin de la rue.
Pour plus d'infos sur Épique, rendez-vous sur revueépique.com. Épique qui s'écrit E-P-I-C. Passons maintenant à un autre MOOC, mais celui-là, il a déjà 10 ans. Allez, une petite archive.
Bonjour Jérôme Ruskin.
Bonjour.
Vous êtes fondateur et directeur de publication d'Ouzbek Erika. Qu'est-ce que c'est ?
C'est une innovation de presse. C'est 200 pages tous les trimestres et c'est 200 pages d'analyse sur le présent et sur le futur. Voilà. Et on étudie en gros les basculements du monde d'aujourd'hui.
C'est à la frontière entre la BD, le magazine, la revue, le livre.
Exactement. C'est vraiment un ovni de presse où on fait un pari de qualité sur la matérialité de l'objet, sur la distribution. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et sur vraiment la qualité de nos papiers, nos sujets qui sont vraiment très approfondis, des papiers de 15 000, 30 000 signes, où vraiment on va au fond des choses.
Jérôme Ruskin, directeur de la publication d'Ouzbek et Rika dans l'atelier des médias, c'était en septembre 2010. Pauline, tu as rencontré à Paris il y a quelques jours Blaise Mao, qui est depuis 10 ans le rédacteur en chef de ce MOOC, donc qui s'appelle Ouzbek et Rika.
En une décennie, Ouzbek Erika a changé plusieurs fois de formule, mais son ADN, lui, a peu changé. La revue est née sous forme de MOOC. Après être brièvement passée par une forme de magazine avec 100 pages en moins, ils sont finalement revenus au format du MOOC. La nouvelle formule, donc, est plus dense. Elle est passée de 112 à 176 pages, avec des dossiers plus fouillés et le retour d'une ancienne rubrique appelée l'Uchronie.
D'ailleurs, Ouzbek Erika, ce n'est pas seulement un MOOC en papier.
C'est maintenant un média multiplateforme. C'est ce que m'a expliqué Blaise Mao, donc son rédacteur en chef.
En fait, quand on fait un magazine trimestriel, le rendez-vous, il est que 4 fois par an avec nos lecteurs. Et donc, c'est très frustrant. C'est à la fois le bon rythme pour analyser avec la bonne hauteur de vue le monde qui vient, mais on avait envie aussi de parler de l'actualité du futur. Donc, d'avoir un traitement quotidien sur la plateforme d'Ouzbek Erika de ces sujets du futur. Et on avait aussi envie d'ouvrir, d'être un peu le carrefour des idées sur le futur. C'est-à-dire d'accueillir des tribunes, de créer effectivement des loteries citoyennes où on peut permettre aux gens, s'ils sont tirés au sort, d'expérimenter le futur ou des expériences qui disent quelque chose du futur. Elle est là l'idée de la plateforme, elle est de créer vraiment un réseau de lecteurs et aussi une communauté d'entraide. Par exemple, il y a une option qui s'appelle les SOS, où c'est vraiment comme une bouteille à la mer. Ce qu'on essaie de nouer, c'est un dialogue autour des enjeux du futur, pour pas dire le futur, il faut que ce soit comme ça ou il faut que ce soit comme ça. C'est plutôt pour que les gens fassent du monde qui vient leur principale préoccupation.
Le sous-titre d'Uzbek Erika, c'est le média qui explore le futur. La prospective est dans la ligne éditoriale de ce MOOC. La pandémie n'a pas surpris plus que ça, Blaise Mao.
Alors nous, on l'avait un peu appréhendé et on l'avait un peu anticipé. Je ne suis pas très fier de ça, mais j'avais écrit une brève histoire des virus il y a quelques années dans un numéro du magazine. Je crois que c'était en 2013-2014. Donc c'était le passé, le présent et le futur des grandes épidémies. Et j'avais évoqué l'hypothèse très sérieuse, parce que c'était déjà, en fait, attendu. Hein. C'était pas tellement une surprise. Ça nous a surpris parce que nos pays n'étaient pas organisés, nos sociétés n'étaient pas organisées pour accueillir ça. Mais la plupart des épidémiologistes, la plupart des cabinets de prospective travaillant sur les sujets de santé avaient imaginé ça. Et on évoquait dans cet article, je me rappelle très bien que je parlais de la... des marchés de nourriture chinoise et des problèmes d'hygiène sur ces marchés-là. On l'avait vu, voilà, il y a des prédictions ou des prophéties qu'on préférait ne pas faire. Celle-là, on l'avait malheureusement un petit peu repérée.
Uzbek Erika explore le futur, mais est tout de même bien ancré dans le présent. Et durant cette pandémie, une expression a un peu agacé son équipe éditoriale.
Bah, la formule « monde d'après », elle est un petit peu gadget. Elle est un petit peu facile. Et je trouve que tous les médias se sont rués dessus au bout d'un mois de confinement à peine. Et ça nous a un peu agacé chez Uzbek Erika. D'abord parce que bah, le futur, c'est un peu notre matière éditoriale, donc on trouvait ça un peu facile comme slogan. On avait écrit un long article sur la notion de long maintenant. Et on avait dit, là, en fait, on vient plutôt de rentrer dans une séquence qu'on pourrait appeler le long maintenant et qui risque de durer plus longtemps que la fin du premier ou du 12e confinement. Et donc, c'est une période d'incertitude qui n'est pas... Il n'y a pas un monde d'avant et un monde d'après. Et tout d'un coup, quand on sort de chez soi parce que la crise est en train de baisser ou le nombre de personnes en réanimation est en train de baisser, on rentre dans le monde d'après. Ça ne marche pas comme ça, en fait. Il n'y a pas d'effet cliqué, il n'y a pas de séquence historique qui bascule d'un jour à l'autre. Donc, je trouvais ça un petit peu ridicule. Et en même temps, ça dit quelque chose. Cet empressement à parler du monde d'après, ça dit qu'on a tout de suite besoin de se projeter sur quelque chose de positif. Ça, c'est... tant mieux.
Pauline, Uzbek Erika entend publier en novembre un beau livre de plus de 200 pages qui proposera la chronique de la décennie 2010.
Oui, un condensé des meilleurs articles, dessins, illustrations, histoires parues dans la revue depuis son lancement. Financé uniquement par les lecteurs grâce à une campagne de levée de fonds, le livre coûtera 32 euros. On encourage donc les auditeurs de l'Atelier des médias à les soutenir.
Et évidemment, merci Pauline. Pour en savoir plus, c'est sur uzbekerika.com. Fin juin, un nouveau magazine scientifique a débarqué dans les kiosques en France. C'est un mensuel qui s'appelle Epsilon et qui peut déjà compter sur une solide communauté d'abonnés réunie grâce à une campagne de financement participatif qui a battu tous les records sur la plateforme Ulule. Pour la petite histoire, beaucoup des journalistes qui forment l'équipe éditoriale d'Epsilon sont des anciens de Science et Vie, un magazine qu'ils ont quitté après son rachat par Reward Media et des profonds désaccords sur la ligne éditoriale. Créé en quelques mois, Epsilon entend donner un coup de jeune à la presse d'information scientifique, notamment en racontant des histoires, tout simplement. Pour l'Atelier des médias, Juliette Labracherie s'est entretenue avec une des rédactrices en chef d'Epsilon.
Bonjour Mathilde Fontaise.
Bonjour.
Alors avec Hervé Poirier, vous êtes co-rédactrice en chef du nouveau magazine d'actualité scientifique Epsilon. Est-ce que vous êtes sortie de l'urgence aujourd'hui ?
On commence, ça y est, à sortir de l'urgence. On a bouclé, ça y est, le numéro 2. D'Epsilon. On travaille sur le numéro 3 aujourd'hui, qui sortira donc fin août, qui sera le daté septembre d'Epsilon. Et on commence à retrouver un petit peu de sérénité, on commence à retrouver un fonctionnement de rédaction, on va dire, un peu plus classique. On se consacre beaucoup plus au fond et un petit peu moins à la forme. Hein. Le magazine est posé, son rythme, ses maquettes, tout ça est posé. Et maintenant, on fait ce qu'on préfère, c'est-à-dire chercher des sujets, faire des interviews. On n'est pas dans une routine, mais par contre, on est sur le fond, enfin.
Pour revenir un peu sur l'histoire d'Epsilon, vous êtes une majorité dans la rédaction à venir du magazine Science et Vie, donc qui a été racheté à l'été 2019 par Reward Media. Pourquoi créer ensemble un nouveau magazine scientifique a été comme une évidence pour vous tous ?
Je crois qu'on n'a pas quitté Science et Vie parce qu'on en avait marre de parler de science à des lecteurs. Il y a eu cette rencontre avec l'éditeur Emmanuel Mounier, l'éditeur du Nick Heritage Media, qui partagé cette envie avec nous et qui nous a donné aussi cet élan pour lancer Epsilon. Et quand on a commencé à y réfléchir, très vite, on a été emporté par une envie très forte de rénover un petit peu ce que peut être la vulgarisation scientifique, hein, cette presse de vulgarisation scientifique qui est incarnée par Science et Vie, mais pas seulement, par Science et Avenir, par Pour la Science et par des journaux spécialisés tels que Ciel et Espace, par exemple, sur des thématiques de sciences particulières et qu'on connaît bien, nous, qu'on aime beaucoup, dans laquelle on travaille, moi, depuis une petite quinzaine d'années et pour certains de l'équipe depuis plutôt 25 ans. Et on a eu envie de se reposer des questions, de réfléchir à le faire autrement. On a aussi eu envie, en tout cas eu l'impression qu'on était dans un moment, d'un point de vue de la société, hein, on était dans un moment où la science prenait sa place au cœur de la vie des gens. La science a souvent été mise de côté comme une discipline particulière, quelle qu'elle soit, que ce soit de l'astronomie, de la biologie. En tout cas, on parle de science comme ça pour la mettre un petit peu à part. Et donc, il y a les thématiques, on va dire, grand public, et les thématiques scientifiques qui étaient un petit peu réservées aux experts, souvent effrayantes, jugées complexes. Et on a l'impression que ces derniers temps, d'une part avec, on va dire, une tendance de fond, hein, un intérêt global au réchauffement climatique et à ces questionnements, et tout à coup des climatologues débarquent dans des plateaux télé, et tout à coup des... Et puis ensuite le Covid, qui renforce cette idée et qui habitue quelque part le public à entendre parler des chercheurs et à s'apercevoir qu'en fait la science n'est pas plus complexe que je ne sais pas, l'économie, la politique. Et finalement, on se dit qu'on est dans un moment où on peut essayer d'affirmer cette idée que, ben oui, la science se parle du monde, ben oui, la science, on peut en parler simplement. Et la science peut apporter des réponses aux questions du quotidien. En tout cas, on a eu envie de faire en sorte de rendre accessible, donc de ne plus de cette science, de ne plus être rangée dans un coin du kiosque un peu poussiéreux, un petit peu effrayant, mais de faire revenir comme ça ces thématiques-là, de les rendre accessibles. On essaye d'immerger aussi le lecteur. Ça ne veut pas dire qu'on n'étaye pas, ça ne veut pas dire qu'on ne donne pas les données chiffrées, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas au fond de l'enquête, qu'on n'exerce pas notre métier à nous de journaliste scientifique. On travaille toujours de la même manière avec le même sérieux, mais simplement on essaye d'être le plus accueillant possible dans notre manière de présenter les choses. Et on va vous raconter un monde qui sera pas forcément simple, pas forcément, mais souvent complexe, mais on va vous emmener dans cette complexité. Et notre force à nous, c'est de vous raconter des histoires intéressantes. On n'a pas envie de raconter des histoires froidement. On a envie de provoquer au lecteur des sensations. Et on se dit que ce sont les sensations des chercheurs qui découvrent eux-mêmes le monde. Enfin, comment est-ce que le monde est différent? Comment est-ce que l'arbre est composé en fait d'une tribu d'êtres vivants qui sont réunis comme ça dans un tronc et dans des branches? Comment est-ce que l'intérieur de la géante Jupiter, on commence à l'appréhender? Bien évidemment que les chercheurs sont enthousiastes, exaltés par ces découvertes-là, et c'est à nous aussi de rendre ces sensations.
Donc vous dites raconter des histoires, vous dites aussi on ne va pas dire au lecteur ce qu'il faut penser.
Nous on adopte une posture qui est la posture du réalisme scientifique, et ça c'est peut-être la seule religion que nous avons. Donc on ne va pas prendre position pour dire par exemple que le nucléaire est bon ou mauvais, on ne va pas prendre position pour dire qu'il faut être végétarien aujourd'hui ou pas, on ne va pas prendre position pour dire que la 5G c'est utile à la société ou non, c'est dangereux pour la santé ou non. Mais l'idée, effectivement, est de donner au lecteur les outils pour se faire sa propre opinion. Et on pense que c'est vraiment notre utilité aujourd'hui. C'est-à-dire que la culture scientifique, c'est quelque chose... Et ça, c'était aussi l'envie hein, de l'éditeur qui nous a rencontrés, Emmanuel Mounier. La culture scientifique, si une société ne la partage pas, une société ne peut pas discuter. Il faut au moins partager quelque chose de commun pour pouvoir discuter ensemble de ces thématiques complexes que sont le coronavirus, le nucléaire, les OGM, le glyphosate. Et si on ne partage pas un minimum de culture commune qui nous permet à les uns et les autres d'échanger et d'être en désaccord potentiellement, eh bien là, c'est la porte ouverte aux fake news. Là, c'est la porte ouverte au complotisme. Là, c'est la porte ouverte à toutes ces dérives, en fait, hein. Et donc, nous, on ne va pas débunker. On ne va pas dire au lecteur, il ne faut pas penser ça. On ne va pas dire au lecteur, regarde ce que telle personne a dit. En fait, c'est faux pour ci, pour ça, pour ça. Non. Mais par contre, on va essayer, au fil des mois, de donner au lecteur cette culture scientifique, cette approche aussi des sujets, habituer le lecteur à cette approche des sujets, pour qu'après, derrière, il puisse finalement partager, on va dire, ce savoir minimal pour pouvoir après se faire sa propre opinion.
La pandémie de Covid-19, elle a mis le monde de l'information à l'épreuve, et notamment les journalistes scientifiques. Quelles leçons, justement, vous en tirez ?
Je ne suis pas sûre que la pandémie ait mis à l'épreuve les journalistes scientifiques. Et je ne suis même pas sûre que la pandémie ait mis à l'épreuve les scientifiques. Ça a été beaucoup dit que la pandémie avait fait du mal à la science, puisqu'on a vu la science hésiter, puisqu'on a vu la science ne pas avoir de réponse. Mais en fait, en tant que journaliste scientifique, nous, on sait très bien que la science hésite et que c'est un processus normal de la science. La science, c'est une accumulation de travaux qui peuvent parfois se contredire, qui peuvent même parfois aller très loin vers une conclusion, puis revenir en arrière. L'histoire des sciences est faite d'aller-retour permanent. C'est aussi notre travail à nous de montrer que le savoir se constitue avec ses allers-retours, avec ses balbutiements, avec ses bégaiements, avec ses incertitudes. Et donc là, par exemple, sur le coronavirus, ce qu'on essaye de faire partager aussi aux lecteurs, c'est que la science donne des réponses, mais dans une certaine mesure. Et il y a encore bien des inconnus. Et c'est cette complexité-là qu'il faut mettre en valeur. Ce qui est délicat, c'est qu'évidemment, tout le monde a envie d'avoir des réponses, qui soient des réponses définitives. Au final, les leçons ne sont pas si négatives pour la science. Pour peu qu'on accepte que la science puisse donner des réponses partielles et des réponses complexes. Et c'est bien ça notre rôle de journaliste scientifique.
Donc le magazine, il se fonde aussi sur un contrat de confiance avec les lecteurs. Donc pour affirmer cette confiance, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez mis en place ?
Pour affirmer cette confiance, on a cherché, comme je le disais tout à l'heure, à mettre en valeur le plus possible notre manière de travailler. En affichant les chercheurs qu'on a contacté le plus possible, en donnant les références des publications, etc. Et après, dans nos rapports avec notre éditeur aussi, on a cherché, par une charte éthique, hein, qui est publiée sur notre site internet, puisqu'on a quand même un site internet assez succinct, mais qui permet de publier cette charte, on a cherché à préserver le plus possible notre indépendance vis-à-vis de notre actionnaire qui est le propriétaire d'Epsilon, mais qui ne contrôle pas le contenu d'Epsilon. De la même manière qu'on reçoit des publicités dans Epsilon, mais que ces publicités jamais nous n'aurons de rapport, nous, la rédaction écrivante, enfin la rédaction avec les annonceurs qui vont publier des publicités dans le magazine. Nous avons dressé comme ça, par cette charte éthique, hein, qui a un mur infranchissable qui protège, nous pensons, l'indépendance éditoriale du magazine. Donc on est engagé dans ce sens. Notre éditeur a été d'accord dès le départ sur ces principes-là, ce qui nous a permis d'élaborer cette charte. On pense que le statut de journaliste tel qu'il est fait, il est bien fait. Le journaliste est certes employé par un éditeur, mais il est au service d'un lecteur. Et ça joue chaque seconde dans sa manière d'appréhender son travail. Et c'est ça qu'il faut préserver, ce statut de journaliste-là. Donc à Epsilon, on travaille avec des journalistes et on est protégé par une charte éthique. Et on a une société des journalistes qui intervient et qui est la garante aussi de ces pratiques et de cette éthique. Voilà, on a l'impression d'être bien parti pour pouvoir tenir les promesses d'indépendance et de transparence.
Merci Mathilde Fontaise.
Merci à vous.
Mathilde Fontaise, co-rédactrice en chef du tout nouveau magazine de vulgarisation scientifique français Epsilon, au micro de Juliette Labracherie. Epsilon compte aujourd'hui près de 30 000 abonnés et son premier numéro s'est vendu à 30 000 exemplaires en kiosque. Le deuxième numéro sortira fin juillet. Pour plus d'informations, c'est sur epsilon.com, Epsilon avec deux O. Avant de se quitter, place à Mondoblog Audio qui vous fait entendre les blogueuses et blogueurs francophones de RFI.
Salut, moi c'est La Grenouille. J'habite à Bruxelles, en Belgique, et mon blog c'est sproutchlagrenouille.mondoblog.org. Dans mon billet audio, je vais vous parler de science, de vulgarisation et de transmission. Si mes profs de secondaire m'avaient mis entre les mains une brève histoire du temps de Stephen Hawking, ma vie aurait peut-être été différente. La physique en secondaire m'a fait souffrir au point de me faire dire, trop jeune, que ce domaine des sciences n'était pas fait pour moi. Avec le recul, je me demande si la physique n'était vraiment pas faite pour moi, ou alors si ce sont mes profs qui ont réussi à m'en détourner. Mais c'est facile de jeter la pierre aux profs, mais quand même, qui à part eux aurait pu m'initier à Hawking ? Des souvenirs personnels me font penser que certains profs passent totalement à côté de leur mission, et je précise que je suis prof de science, hein. L'œuvre majeure de vulgarisation de Stephen Hawking, du Big Bang au trou noir, a été traduite en 35 langues. 10 millions d'exemplaires vendus depuis sa parution et aucun exemplaire n'a jamais atterri dans mes mains d'adolescents curieux. Mais quel mystère de l'univers ! Et donc voilà, j'ai découvert Hawking trop tard et il est mort trop tôt. Quand on interrogeait Hawking pour savoir quelle personne l'avait inspiré, il parlait de Dikram Tata, modeste prof de maths. Un prof, mais qui aimait son métier, un prof passionné. Et c'est de ça qu'on parle ici, de passion. On l'a ou on ne l'a pas. Et si on ne l'a pas, il faut changer de vie, car si le dégoût est contagieux, la passion se communique. Qui d'autre peut communiquer une passion mieux qu'un prof ou un vulgarisateur ? Hawking était le père des vulgarisateurs modernes. Pas de prise de tête, il expliquait simplement son job et communiquait ses découvertes sans condescendance. Hawking, en plus d'être un grand cerveau, un chercheur hors pair, était un passeur de science. Nous, profs, nous devons être le relais de ces personnages d'exception. En fait, la vie, c'est vivre une passion et la transmettre. Sans cela, la vie n'a pas de sens. C'est d'une certaine manière le dernier enseignement de Stephen Hawking qui, dans un univers où il n'y a pas la place pour Dieu, s'en est retourné à ses poussières d'étoiles.
C'était Éric Leverque, alias La Grenouille. Retrouvez-le sur son blog sproutchlagrenouille.mondoblog.org.
Mondoblog.org.
C'est la fin de cette émission. Je remercie Laurie Plisson qui en a assuré la réalisation. Camille Deloche était aux manettes de Mondoblog Audio. Si vous avez raté le début de ce programme à la radio, sachez que l'Atelier des médias est disponible à l'écoute en version longue sur les sites et applis de RFI et sur toutes les plateformes de podcast. Podcast Addict, Apple Podcast ou encore Spotify. Vous pouvez m'écrire via les réseaux sociaux ou à l'adresse atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.